Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle édition de l'heure du crime, une émission préparée comme chaque jour par Justine Vigneault et Laure Broulard. Et c'est Marc Bisset qui est à la technique de l'heure du crime. Et à la une de notre émission aujourd'hui, cette affaire vraiment atroce. Je disais tout à l'heure qu'on avait atteint dans cette affaire criminelle vraiment des sommets dans l'horreur à cause de la découverte qu'on a faite après l'autopsie du corps, des corps des deux hommes qui ont été tués, enterrés vivants, vraisemblablement. Cette affaire, je vous le dis tout de suite, nous est venue par RTL.fr. C'est une auditrice de l'heure du crime qui s'appelle Monique. Elle est exploitante forestière avec son mari dans ce coin de la Charité-sur-Loire où se déroule ce drame, dans la grande région de Bourges, on va dire. Et un jour, elle regarde la télévision, il y a une émission sur ce double crime et qu'elle découvre en fait que l'endroit où on a trouvé les corps se trouve sur une parcelle qui est très proche de là où elle travaille couramment avec son mari. Ça l'a considérablement frappé au point de nous dire voilà, aussi curieux que ça puisse paraître, je ne savais pas cela, que j'ai découvert bien longtemps après. Vous devriez revenir sur cette affaire. Alors on a pris connaissance évidemment du dossier qui est terrible, et puis pour en parler, j'ai demandé aux deux personnes qui connaissent certainement le mieux ce dossier. Maître Marie Dauzet, bonjour.
Bonjour.
Du barreau de Paris. Vous étiez dans cette affaire, la partie civile pour une partie des parties civiles, si j'ose dire. Hein. Et puis, à côté de vous, Ondine Millot, bonjour.
Bonjour.
De Libération, qui signe de nombreuses chroniques judiciaires dans Libé. Et vous êtes aussi intéressé à cette affaire et vous avez suivi le procès.
Oui.
Je suppose.
Le procès, oui.
Vous partagez ce sentiment, je veux dire, on va pas faire pleurer dans les chaumières, mais on est dans un des sommets quand même de l'horreur, non?
Oui.
Vous qui connaissez des centaines d'affaires criminelles.
Oui, pour moi, c'est vraiment le procès de l'incompréhensible. Comment deux types bannes complètement normaux d'après tous leurs amis, oui, commettent le pire du pire.
Oui. Et vous-même, maître, hein, on y reviendra tout à l'heure, mais au cours du procès, vous n'avez jamais compris vraiment le mobile qui était avancé par les accusés ?
Non, effectivement, il y avait cette absence de mobile, et puis surtout, il y avait cette invalidité du sentiment que j'ai ressenti tout au long du procès et qui ne nous a finalement jamais quittés. On a essayé à un moment donné de chercher et de trouver de l'émotion, mais on n'en a pas trouvé.
Voilà. On a envie qu'au moins quelqu'un demande pardon, quoi, dans une affaire comme ça. Alors, pour ceux qui découvrent cette affaire maintenant, on va commencer par écouter un premier document RTL, sorti donc des archives sonores de la rédaction d'RTL. On est au début du mois de mars 2009, donc à Couy, dans le Cher, à 35 km de Bourges. On apprend la disparition d'un couple homosexuel qui sont connus et appréciés dans ce petit village de 400 habitants, où ils avaient d'ailleurs fait construire leur maison quelques temps plus tôt. Luc Amblard, 56 ans, et Guy Bordenave, 39 ans, n'ont plus donné de leurs nouvelles depuis le 7 mars, et c'est la sœur de l'un des deux disparus qui a lancé l'alerte. Alors, une enquête pour disparition inquiétante vient d'être ouverte, et le correspondant d'RTL dans la région, Christian Panvert, se rend sur place.
Plus les jours passent, bien sûr, plus l'inquiétude grandit. À Couy, on parle d'un couple sans histoire qui avait l'habitude de fréquenter l'unique bar épicerie du village de 314 habitants. Très inquiète aussi la maman de Luc Amblard. Elle a 76 ans aujourd'hui. Son fils lui souhaite toujours son anniversaire. Il ne l'a pas fait cette fois et elle n'a plus de nouvelles de lui depuis vendredi. Germaine accepte de parler pour la première fois.
Je vais aller manger chez eux le dimanche. Et j'ai appelé au moins 3-4 fois, il me semblait drôle qu'il ne soit pas là. Alors j'ai pensé que, comme il est en train de refaire faire sa cuisine, j'ai dit tiens, ben, il ne va pas m'inviter du fait qu'il ne pourra pas faire à manger ou autre chose. Je commence à m'inquiéter parce que ça va faire quand même 8 jours. Là, je me demande même si, malheureusement, s'il est encore dans ce monde. Jusqu'à les premiers temps, bon, j'ai tenu le coup, mais là, je commence à paniquer quand même. Hein.
Le parquet de Bourges a publié un appel à témoins et a fait diffuser les portraits du couple. Hier, une cinquantaine d'officiers de la police judiciaire étaient dans le village. Un hélicoptère a même survolé la zone, mais pour l'instant, le mystère reste entier.
Alors, Ondine Millot, il faut dire que dès le début, c'est vraiment une enquête pour disparition inquiétante, parce que après l'alerte donnée par la sœur de l'un des deux disparus, les gendarmes sont allés dans la maison. Il n'y avait pas de traces de lutte ou de vol particulier, mais on a trouvé des traces de sang, je crois.
Oui, du sang sur le lit, un peu de désordre, alors que c'est un couple très ordonné, des tartines de pain beurré laissées en plan.
En plan, donc qui indique une sorte de soudaineté, quoi, de l'événement qu'on ne soupçonne pas à ce
oui,
moment-là.
Sans doute soudain, leur voiture est toujours là, donc on comprend pas, quoi.
Alors, qui sont Luc Amblard et Guy Bordenave? J'ai dit tout à l'heure que ils gèrent ensemble une petite société d'événementiel, hein, dans leur région.
Intermédiaires pour des prestations d'artistes de cirque, d'intermittents du spectacle, des choses comme ça. Mm-hmm. Ils sont ensemble depuis 15 ans. C'est un couple sans histoire, comme on dit, beaucoup d'amis, des amis très proches. On leur connaît aucun ennemi, ni souci, ni passé judiciaire, quoi que ce soit de la sorte. On les appelle les tontons, voilà, c'est leur petit nom. Ils sont sympathiques, plutôt joyeux, fêtards, mais la fête tranquille, quoi, entre amis, à la maison, rien, vraiment rien d'exceptionnel.
Donc rien qui puisse, en tout cas, indiquer qu'il y a un règlement de compte quelque part, des jalousies, des menaces. Ils n'ont pas reçu de menace, quoi.
Non, aucune menace. Évidemment, les enquêteurs cherchent tout de suite s'il y a un passé judiciaire, des liens, des activités occultes, etc. Ils ne trouvent rien de la sorte. Bien au
contraire. Alors, on pense à un crime homophobe au début.
Voilà, ça c'est la première piste qui apparaît quand on voit que ce couple est vraiment sans histoire. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment homophobe à l'origine de leur disparition?
Et autrement, ils sont l'un et l'autre proches de leur famille. Hein,
oui, très proches.
Puisqu'on a entendu là la maman de Guy, je crois.
Et puis il y a la sœur de Guy, Marie-Laure aussi, qui les voit plusieurs fois par semaine, qui appelle son frère tous les jours.
Elle qui a appelé parce qu'elle n'avait plus de nouvelles.
Justement, ça faisait 3 jours qu'elle n'avait plus de nouvelles, exactement. Ouais.
Alors, on va faire une première pause dans cette émission. Ensuite, avec Ondine Millot et avec Maître Marie Dauzé, on va vraiment faire la radioscopie de cette affaire. Malheureusement, dans ce qu'elle a d'horrible, mais en même temps, derrière ce côté horrible, y a des vraies questions, d'ailleurs, qui n'ont pas eu toutes leurs réponses, même après le procès. À tout de suite.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et à la une de l'heure du crime aujourd'hui, ce double crime à la Charité-sur-Loire, c'est sur le territoire de cette commune qu'on a trouvé, 3 mois après le début de l'enquête, les corps des deux malheureux qui avaient disparu. On va continuer à en parler, bien sûr, avec mes invités, la journaliste de Libération, Dine Millot, et puis Maître Marie Dauzé, avocate au barreau de Paris, qui était l'avocate, vous avez été l'avocate pour la famille de Guy Bordenave, c'est ça?
Non, pour la famille de Luc Amblard.
De Luc Amblard, voilà. Pardonnez-moi.
Oui. Donc c'était sa maman qui était en vie et qui est toujours en vie, sa sœur, sa nièce et son neveu.
Oui. Alors, on le disait tout à l'heure, dès le début, les enquêteurs pensent à quelque chose de très inquiétant, et une affaire criminelle. Il va y avoir un important dispositif mis en place, mais on n'a pas d'informations vraiment très très rapidement. Et puis on apprend quand même, mais ça je pense que ça déborde pas le cadre vraiment local, on apprend qu'il y a 2 personnes qui ont été arrêtées par les gendarmes. Bon, on sait pas plus. Et puis 3 mois après, c'est là où on atteint vraiment on peut parler d'horreur, c'est que 3 mois après, le 4 juin 2009, on apprend que les corps des deux disparus, donc Luc Amblard et Guy Bordenave, ont été retrouvés. Ils étaient donc, comme on l'a dit, enterrés dans une fosse creusée dans un bois près de la Charité-sur-Loire. Alors, évidemment, sur RTL, c'est Myriam Alma qui fait le point sur cette affaire terrible dans RTL Soir.
Les corps ont été retrouvés à 14h par les gendarmes et des chiens spécialement formés à la recherche de cadavres. Des investigations étaient en fait menées dans la zone depuis plus de 2 semaines. Mais cette zone était jusqu'ici trop large et c'est grâce notamment aux indications fournies par l'un des suspects que les enquêteurs ont pu resserrer leurs recherches. Les cadavres ont été découverts dans un endroit isolé sur la commune de la Charité-sur-Loire, à environ une demi-heure de route du domicile du couple assassiné, comme l'indique Éric Mattey, le procureur de la République de Bourges.
Les corps étaient ensevelis à proximité de la Loire. Ils avaient été enterrés à environ 1,20 m de profondeur.
Alors, les spécialistes de l'identité judiciaire sont actuellement sur place pour vérifier formellement les identités, hein, même si on a très peu de doutes. Une autopsie va également être réalisée pour savoir comment ils ont été tués. Les deux suspects interpellés le 1er avril dernier ont tous les deux reconnu les faits. Enlèvement, séquestration, suivi de mort. Un enlèvement prémédité pour un mobile a priori crapuleux. Ils voulaient récupérer une carte bleue et de l'argent liquide chez le couple qui travaillait dans l'événementiel.
Alors, on va revenir maintenant la manière dont les enquêteurs sont arrivés à l'arrestation de ces deux personnes qui sont avérées être les auteurs de ce double crime. Ondine Millot, peut-être, Maître Dauzé, évidemment, si vous avez des informations. Comment ça se passe? Parce que la disparition a lieu dans la nuit du 7 au 8 mars, et ces deux suspects sont arrêtés début avril, 1er avril,
oui,
je crois.
Mais il y a des soupçons qui pèsent sur eux bien avant. Mm-hmm. Donc il s'agit de Claude Juillet, un homme de 55 ans, et Christophe Rayet, qui a 39 ans. Oui. Claude Juillet est le premier à être soupçonné parce que c'est le compagnon de la sœur d'un des deux disparus, Guy Bordenave. Donc, oui. Elle s'appelle Marie-Laure Bordenave. Oui. C'est son compagnon, et 2 jours après la disparition, il va laisser tomber devant elle, sans faire exprès, 2 cartes de crédit.
D'accord.
Elle va voir ce qu'il y a écrit sur ces cartes de crédit. Elle va voir que l'une est au nom de la société de spectacle des deux disparus.
Et l'autre, pour laquelle elle juste... cet homme a travaillé dans le passé. Hein,
oui,
je crois,
oui. Et puis de toute façon, ils sont proches puisque c'est le.
Bah oui, bien sûr,
voilà, c'est le compagnon de sa sœur. Ouais. Et donc elle voit ça. Elle ne comprend pas très bien pourquoi aussi ce soir-là, Claude Juillet lui avait déposé sa fille à lui pour lui demander de la garder.
Oui. Il était rentré dans la nuit.
Il était revenu le lendemain matin. Ouais. Il n'était pas joignable cette nuit-là. Elle avait essayé de le joindre à de nombreuses reprises. Le portable était coupé, ce qui n'est pas dans ses habitudes non plus.
Ouais.
Il y a tout un tas de faisceaux comme ça, de choses étranges.
Ouais.
Parce qu'on va comprendre assez rapidement qu'ils n'ont pas vraiment maquillé leurs actes. On les voit notamment en train de nettoyer leur voiture. Il y a des témoins qui les voient en train de nettoyer le fourgon.
Ils ne prennent
pas
de précautions, quoi.
Pas énormément, non. Il y a beaucoup d'indices progressivement qui les trahissent.
Voilà, et c'est donc sur les indications de la sœur de Guy Bordenave que l'un et l'autre sont interpellés, ensuite ils vont avouer aux enquêteurs ce qu'ils ont fait et dire que les corps se trouvent dans la forêt, mais après il y a des recherches qui sont assez longues. Alors, Maître Marie Dauzé, une chose qui est très contradictoire dans ce que dit... la contradiction ne vient pas d'Ondine, c'est ce qu'elle dit. Cette espèce de côté complètement pied nickelé du crime. Et puis le fait quand même que le crime, c'est un assassinat. Il y a eu une préméditation, la fosse, ils l'ont creusée, ils le diront aux enquêteurs une semaine avant, je crois.
Oui, ils l'ont creusée une semaine avant, ça a pris beaucoup de temps, ils ont choisi l'endroit... Ils y ont pensé, et il est évident qu'en creusant cette fosse, ils savaient très bien ce qu'ils allaient faire, et ils l'ont fait jusqu'au bout. Donc c'est un peu étrange, parce que d'un côté, on a cette détermination qui est digne d'un grand professionnel du crime, de le préparer à ce point et d'aller jusqu'au bout de ce qu'on a décidé de faire, alors que, effectivement, là, on est vraiment dans l'horreur. Et de l'autre, tout cet ADN qu'on laisse sur la tête d'oreiller, dans l'appartement des victimes.
Oui, ils sont confondus non seulement par le fait qu'ils ont avoué, mais aussi par le fait qu'il y a un faisceau de preuves matérielles.
Voilà,
quoi.
Les colliers de serrage, il y a leur ADN dessus, le fourgon.
Colliers de serrage.
Oui, parce qu'ils les ont effectivement ligotés à un moment donné. Voilà.
Oui.
Donc on retrouve leur ADN partout dans la maison. Le fourgon va être nettoyé aux yeux de tous. Bien évidemment, il n'était pas très compliqué de les interpeller. Donc il y a effectivement ce que dit Ondine est vrai, quelque chose de très amateur dans la façon de faire, mais dans la détermination criminelle, par contre, on est assez abasourdi, oui.
Oui. Alors il y a la question évidemment du mobile. On va y venir dans un instant après une pause, parce que l'un des deux va parler de crime qu'on pourrait qualifier de crime passionnel. Évidemment, il y a quand même un aspect tout à fait terrible qui est les cartes de crédit qui ont été utilisées. Enfin, c'est un double crime qui rapporte 900 euros à leurs auteurs.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et on revient sur cette radiographie d'une histoire atroce dont on vous a donné les circonstances, dont on vous a rappelé les circonstances avec mes deux invités, Ondine Millot, journaliste à Libération, et maître Marie Dauzé, avocate au barreau de Paris, qui était l'avocate donc pour une des parties civiles. On va beaucoup parler tout à l'heure, c'est pour ça que je parle de radiographie, parce que c'est une histoire qui mérite effectivement d'essayer de comprendre. Moi j'ai lu ce que vous avez écrit, Ondine Millot, sur le procès notamment, et je voudrais qu'on y passe un bon moment tout à l'heure, parce que on est devant deux individus, comme on dit, qui ne manifestent aucun sentiment particulier, aucun sentiment de regret ou de remords, et puis surtout avec ce mobile sur lequel on va revenir dans un instant, crime passionnel, l'un des deux dit je les ai tués parce qu'ils m'aimaient pas, et puis parce que il les rendait responsables de sa séparation avec la sœur de Guy Bordenave. On y revient dans un instant. D'abord, un autre moment fort de cette instruction, c'est le 23 avril 2010, donc un an après les faits, après la découverte macabre des deux corps, reconstitution judiciaire qui va mettre en évidence évidemment toute l'horreur du crime.
L'autopsie est formelle, les deux victimes n'ont aucune trace de violence, pas de coup de couteau ou de blessure par arme à feu. Ils n'ont pas non plus été drogués ou empoisonnés, non, les deux hommes, du ruban adhésif sur la bouche, des liens en plastique autour des mains, étaient bien vivants et parfaitement conscients lorsqu'ils ont vu leur meurtrier présumé peu à peu recouvrir leur corps de terre dans ce trou d'un peu plus d'un mètre de profondeur. Écoutez, maître Marion de Scherf, elle défend les sœurs de Guy Bordenave.
J'en ai parlé effectivement avec mes clientes qui évidemment ont été extrêmement choquées d'apprendre cet événement. Déjà de perdre un proche et en plus d'apprendre les circonstances de sa mort, puisqu'ils se sont tout simplement vus mourir l'un en face de l'autre.
Les deux accusés ont donné hier lors de la reconstitution des versions divergentes. L'un des suspects affirme avoir été à la terrasse d'un café au moment où son complice présumé tuait les deux hommes. Les magistrats cherchent toujours à comprendre un an après les faits le mobile de ce meurtre. Un acte purement crapuleux ou le fruit d'une vengeance personnelle sur fond d'histoire d'amour.
Voilà, c'était Georges Brenier donc sur RTL le 23 avril 2010. Alors, il faut maintenant parler des deux accusés, de Claude Juillet et Christophe Rayet. On dit toujours Claude Juillet d'abord, je m'adresse à mes invités, parce que c'est lui qui a vraiment imaginé ce scénario
C'est
terrible.
L'impression que ça donne, il le nie pas d'ailleurs, même s'il tient toujours à ramener son complice dans la boucle.
Qui lui va nier jusqu'au bout.
Qui lui va dire, j'ai aidé à la préparation. Enfin, j'étais là le soir dans la maison des deux victimes, mais je n'ai pas été à la fosse et je n'ai pas participé à l'enterrement, sachant quand même, je précise, que ça ne tient pas du tout.
Voilà, il y a des constatations qui font que c'est pas crédible.
Il y a de l'ADN sur les liens. Et puis, comment enterrer deux personnes vivantes sans les menacer en même temps d'un fusil, pourquoi elle ne serait pas partie, c'est quelque chose de quasiment impossible à faire tout seul.
Bien sûr. Ouais. Alors Claude Juillet, c'est qui? Alors, ce qu'on a dit tout à l'heure, il a travaillé dans le passé pour la société des deux disparus. Oui. Il vit, alors il est le compagnon de la sœur, mais il a des relations assez chaotiques. Il a un enfant d'une première union.
Donc une fille qui a 12 ans, dont il s'occupe très bien. Enfin, tout le monde dit que c'est un très bon père. Oui. Il s'est battu pour avoir la garde. malade et il la voit le plus souvent possible.
Oui.
Il est le compagnon de Marie-Laure Bordenave, la sœur de Guy.
Oui.
Il se dit très épris de cette femme, mais leur couple a pris un peu de distance. Ils se sont pas séparés, mais ils ont décidé de décohabiter à la demande de Marie-Laure. Ils se voient toujours, ils ont toujours une relation amoureuse. Ils n'habitent plus ensemble.
Depuis longtemps, là, depuis...
plusieurs mois. Et lui, si vous voulez, Claude Juillet, il impute ça à l'influence mauvaise sur son couple du duo Amblard-Bordenave.
Ouais. Alors, vous qui connaissez bien le dossier pour cause, Maître Dauzet, comment il explique ça, la montée de cette... Je sais pas, est-ce qu'il faut employer le mot de haine contre ce couple?
Mais non, mais c'est ce qui est terrifiant. Il ne l'explique pas. Il n'est pas en capacité de l'expliquer. C'est-à-dire que quand il dit... il ne m'aimait pas et c'est à cause d'eux si mon couple battait de l'aile, il n'est pas capable de citer un exemple.
Oui.
Une phrase d'une des deux victimes qui aurait dit « on t'aime pas, on n'a pas envie que tu continues ton histoire d'amour avec Marie-Laure ». Il n'en est pas capable.
Un mois avant, je crois, il dînait avec
Mais bien sûr, il les voyait régulièrement. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'il a dû frapper à leur porte, les victimes ont dû lui ouvrir sans difficulté. Parce
bien
que s'ils ne le portaient pas vraiment dans leur cœur, c'était quelqu'un qu'ils avaient l'habitude de voir.
Bien
et
sûr.
Il n'est pas capable d'expliquer la haine qu'il a pour eux et personne ne pouvait s'en douter. Il dit à un moment donné dans ce dossier, il dit les victimes constituaient un problème pour moi dans mon couple, j'ai éliminé le problème.
Ouais.
C'est tout. Il dit pas je n'endormais plus la nuit, il m'empêchait de vivre, je souffrais énormément. Il dit c'était un problème, il fallait bien que je l'élimine. Donc j'ai
il fallait éliminer la cause du problème, comme ça il y aurait plus de problème. Quoi.
C'est ça qui est extrêmement frustrant dans ce dossier, c'est qu'on n'a pas. On n'a pas atteint la raison, on n'a pas atteint le mobile, et puis on ne comprend pas cette espèce de paranoïa. Oui. C'est quelqu'un qui s'exprimait très peu aussi.
Oui.
C'est quelqu'un qui exprimait pas ses sentiments, Claude Juillet. Et l'expert, à un moment donné, psychiatre, le relève. Il n'a jamais été habitué à dire ce qu'il ressentait, à dire comment il aimait, s'il aimait. Marie-Laure, à un moment donné, se lève dans le procès, il dit « mais tu m'as jamais dit que tu m'aimais. Je t'aimais comme un fou, c'est pour ça que j'ai tué de cette façon-là ce couple ».
Et elle va plus loin, elle dit mais si moi je t'ai demandé de quitter le domicile, c'est parce que je voulais te mettre à l'épreuve, je voulais savoir si tu m'aimais.
Oui, il y a un petit peu de ça. Et surtout elle dit tu m'as jamais dit que tu m'aimais. Et lui explique ce geste fou par l'amour fou qu'il lui portait. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne va pas.
Et alors, vu de votre banc, si j'ose dire, de la presse, Ondine Millot, comment vous réagissez à ce qui se passe, ce qui se dit
comme le dit Marie, c'est ce qui est terrifiant, c'est à quel point il n'y a pas de mots des deux accusés, hein, parce que Christophe Rié non plus.
Et on va parler de lui dans on a pas
ouais,
trop parlé
voilà,
de lui.
C'est du bah oui, bah oui. Non, c'est pas moi, c'est toi, non, c'est lui. Des hommes vraiment de peu de mots.
Oui.
Alors vous disiez tout à l'heure, ils n'expriment pas de regrets, de remords, mais ils n'expriment pas non plus de haine encore recueillie, mal digérée. Ils n'expriment pas tout court, en fait. Et effectivement, Marie-Laure, elle disait moi, si je t'ai chassée du domicile, c'est parce que je voulais que tu me dises que tu m'aimes, ça faisait trop longtemps.
Et clairement, elle dit aussi qu'il n'y a jamais eu de pression sur elle pour qu'elle fasse exploser son décohabite.
On peut reconnaître quand même, puisque elle le dit, que visiblement les deux victimes n'aimaient pas tellement Claude Juillet.
Oui.
Ça, tout le monde l'a senti quand même. Bon, voilà.
Mais
ils sont adultes, ils vivaient leur vie. Pour elle, c'était pas le problème. Elle, son problème à elle, c'était pas que son frère n'aimait pas son compagnon, c'était que son compagnon ne lui manifestait pas ses sentiments.
Oui. Et que disent alors les psychiatres? Vous en parlez rapidement, ou ils ont été vus par des psychiatres, des psychologues. Ils n'ont pas de maladie mentale, on va dire, qui expliquerait qu'ils aient agi dans un moment de folie, etc. Parce qu'il y a cette terrible préparation, quand même.
Non, alors, il n'y a aucune maladie mentale, aucune pathologie non plus. Il y a, chez Claude Juillet, relève un expert, une forme de paranoïa. Et ça, on peut le concevoir. Parce que visiblement, il a quand même nourri cette paranoïa d'une haine qu'il a lui-même inventée. Donc ça, elle existe. Et puis, une rigidité, une psychorigidité. Il n'entend pas. Il est dans une froideur glaciale. Il est vraiment dans l'effroi glacial tout le temps. Il n'entend pas et il ne ressent pas. Moi, j'ai encore cette impression, je crois que je l'avais plaidé, cette invalidité du sentiment. Vraiment, je le répète parce que c'est ce qui prédominait. On n'arrivait pas à savoir ce qu'il ressentait, et c'était tellement fort et prégnant qu'on se disait, mais ressent-il à un moment donné.
Alors, on va faire une pause, on va parler de Christophe Rayet, le deuxième accusé, dans un instant, puis on va évoquer un peu plus longuement les débats, le procès, et aussi parler de la condamnation, puisque certains attendaient une condamnation à perpétuité, les jurés n'ont pas suivi ce que demandait l'avocat général, on va essayer de comprendre pourquoi.
L'heure du crime sur RTL.
Les invités de l'heure du crime, Ondine Millot, journaliste à Libération, qui a suivi évidemment cette affaire et le procès. On va y venir dans un instant. Maître Marie Dauzet, qui était elle l'avocate pour l'une des parties civiles. Peut-être Ondine Millot, on peut dire un peu plus maintenant sur le co-accusé. Donc Christophe Rayet.
Oui, Christophe Rayet, il a 39 ans. C'est un ami de Claude Juillet. Mmh. Lui, on trouve dans son enfance, dans son parcours, plus de signes de violence, quoi. Il a souffert d'une mère alcoolique qui le battait, d'un père absent. Il a abandonné l'école très tôt pour faire divers petits boulots et il est devenu lui-même aussi fortement alcoolique, ouais. À tel point que sa compagne, la mère de ses deux enfants, l'a quitté pour ce motif-là.
Ouais.
Voilà. Et c'est un type qui enchaîne les petits boulots et qui se prend des cuites tous les soirs et qui va pas bien, quoi.
Et qui est un ami, une connaissance proche, un proche de l'autre.
Ils sont amis tous les deux et lui dit que c'est bon, ça vaut ce que ça vaut, mais lui dit que c'est Juillet qui l'a entraîné là-dedans, en lui promettant de l'argent à la clé, sachant que lui, Christophe Rayet, avait une grosse dette à l'URSSAF, donc voilà.
Voilà, et que ça devait pouvoir résoudre son problème d'argent.
Son problème d'argent.
Ce qui explique aussi que donc... alors, on a reconstitué, maître, à peu près comment s'est passé cette nuit du 7 au 8 mars 2009, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils frappent à la porte dans la soirée, comme ça
Oui, alors ils frappent à la porte. Alors, bien évidemment, il n'y en a plus que deux pour nous raconter ce qui s'est passé.
Ouais.
Hein. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Ce qu'ils expliquent, c'est que ils rentrent, que très rapidement ils leur demandent de l'argent, ou en tout cas où sont les cartes bancaires. Ils expliquent que les victimes vont très bien, n'ont pas peur, ne résistent pas, sont plutôt... Non, mais il y a vraiment ça, dit, hein, tout au long de leur récit.
Ils les baillonnent, ils les attachent.
Mais en expliquant qu'il n'y a pas de résistance, que tout va bien, qu'à un moment donné même l'un d'entre eux, Christophe Rayet, va piquer un petit somme avec une des victimes. Et puis voilà.
Attendez, parce que ceux qui écoutent découvrent ce dossier incroyable. Juillet, donc lui, Juillet, il va dormir dans le... Il va regarder la télé.
Juillet regarde la télé.
La soirée, puis il va dormir en bas.
Tout à fait.
Et Christophe Rayet,
il s'allonge au milieu des deux victimes.
Qui sont entravées, baïonnées, oui.
Sur le lit.
Pour piquer un roupillon.
Et il dort, il dit qu'il avait trop bu, et donc il s'endort entre les deux.
Oui.
Oui, mais ça, par contre, il semble en tout cas, au vu du récit de Christophe Rayet, qu'il était effectivement quand même sous l'alcool. Tout au long de cette nuit-là, et que il a des souvenirs précis, d'autres moins, mais que surtout l'influence de l'alcool a probablement renforcé l'influence de Claude Juillet sur Christophe Rayet, je crois qu'il était assez. Mais en tout état de cause, voilà ce qu'ils expliquent. Ils attendent le petit matin, ou en tout cas avant que le jour se lève, ils les emmènent dans ce fourgon.
Parce qu'ils voulaient éviter les contrôles de police, parce que c'est venu dans le procès.
C'est ça. Je pense qu'ils ont moins de risques de se faire arrêter s'ils les emmènent pour les enterrer.
Et ils vont les emmener dans une camionnette. Combien, 30 kilomètres
Voilà, c'est ça, à peu près 30 kilomètres. Ils descendent de cette camionnette. Et là, Claude Juillet dit... ils avancent sans aucune résistance jusqu'à ce trou qui a donc été
creusé une semaine avant.
Et donc ils avancent, ils leur demandent de se positionner l'un en face de l'autre, ils s'exécutent, et puis l'horreur va commencer.
Alors on va continuer à parler de cette horreur tout à l'heure, et puis aussi tout ce qui s'est passé dans le procès, mais on va évoquer ce procès à travers deux documents RTL. D'abord un document qui date de l'ouverture du procès le 26 septembre 2011 devant les assises du Cher. C'est Christian Panvert qui suit ce procès pour RTL, et notamment cette première audience, vous allez l'entendre dans ce que dit Christian Panvert, particulièrement difficile pour les familles et les proches des victimes.
Les familles des victimes ont quitté l'audience. Elles ne pouvaient plus supporter les photos projetées par les médecins légistes qui montrent les deux hommes bâillonnés face à face dans une fosse creusée la veille. Les mains dans du papier Kraft, les bras entravés par des cerflex. L'un d'eux avait encore ses lunettes sur le nez. Les conclusions des médecins sont terribles. Il n'y avait pas de traces apparentes de fracture, pas d'hématome. Les bâillons laissaient libres les narines. Ils ont été enterrés vivants. Annie, la sœur de Luc Amblard, réclame la loi du talion.
Donc qu'elle leur fasse la même chose aux victimes. Enterrés vivants. C'est tout ce que je demande. La même chose que...
Dans le box des accusés, Christophe Raillé reconnaît la séquestration, mais nie avoir enseveli les corps. Claude Juillet, lui, dit l'avoir fait. L'avocate de la famille Amblard n'arrive pas à comprendre le mobile, Marie Dosé.
Il arrive à dire et à exprimer aujourd'hui que les victimes seraient les personnes qui auraient dégradé sa relation amoureuse. Il est très compliqué de considérer que c'est un mobile valable eu égard à l'atrocité de ce qui s'est passé.
Les deux accusés risquent la réclusion à perpétuité. Le verdict est attendu jeudi.
Trois jours de procès et un verdict sur lequel nous revenons dans un instant après une pause. 30 ans de réclusion criminelle, l'avocat général avait demandé la perpétuité.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
C'est la dernière partie de notre émission consacrée à cette affaire, à ce double crime de la Charité sur Loire. On est avec Ondine Millot, journaliste de Libération, qui a suivi évidemment toute l'affaire et le procès dont on va maintenant parler un peu plus longuement, ainsi que maître Marie Dosé, donc avocate au barreau de Paris et avocate pour une des parties civiles. Avant de leur redonner la parole, parce qu'on va revenir longuement sur ce procès et sur le verdict, eh bien parlons du verdict. Donc trois jours plus tard, 29 septembre 2011, ce verdict tombe et c'est 30 ans de réclusion criminelle pour Claude Juillet et Christophe Raillé. Christian Panvert revient sur notre antenne dans RTL Soir sur cette dernière audience du procès.
Pourquoi avez-vous voulu qu'il se regarde mourir, se faisant face dans la fosse creusée quelques jours plus tôt? À cette question de l'avocate d'une des familles, Claude Juillet n'a pas répondu. Sa défense a bien tenté de plaider le crime passionnel, car son client soupçonnait le couple de faire obstacle à sa relation avec la sœur d'une des victimes. Le jury n'a pas suivi les réquisitions de l'avocate générale, il n'a pas prononcé de peine de sûreté et a donc condamné les deux hommes à 30 ans de réclusion criminelle. Dans la salle, on a entendu des soupirs de soulagement, mais très vite, l'inquiétude a pris le dessus. 30 ans de réclusion, sans peine de sûreté, eh bien cela veut dire que Claude Juillet, qui est en récidive, peut demander sa libération conditionnelle dans 20 ans, et son complice, Christophe Raillé, pourra lui faire cette même demande dans 15 ans.
Alors, tout de suite, ça mérite un commentaire, maître Dosé. Donc, dans le verdict, on ne fait pas de différence entre les deux accusés.
Oui, on ne fait pas de différence parce qu'on estime finalement que malgré les dénégations de Christophe Raillé, ils étaient bien tous les deux là, ils ont tous les deux enterré ces deux personnes et ils les ont regardés mourir dans les conditions les plus atroces. Oui. Oui.
Et alors, Christian Panvert rappelait que l'avocat général, Ondine Millot, avait demandé la perpétuité. Est-ce que vous pouvez nous faire revivre ce moment du procès? Donc, comme dans tout, ça dure trois jours, hein, donc il se dit à peu après tout ce qui s'est dit dans cette émission depuis tout à l'heure, les jurés découvrent, hein, encore une fois, ils n'ont pas accès au dossier, donc ce qui est important, c'est ce qui se dit pendant le procès. Et que dit l'avocat général?
Alors, je ne me souviens pas des mots exacts, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais c'est la perpétuité qui est demandée, si vous voulez, il y a
avec pas une peine de sûreté de 22 ans.
Tout à fait, il n'y a pas de choc, où ça paraît presque la continuité d'une
c'était
audience.
C'était attendu, quoi, on va dire.
C'est-à-dire que tout le monde était tellement stupéfait, anéanti par l'horreur, qu'on pouvait demander n'importe quoi, même si ça ne se justifie pas forcément, parce qu'ils ne sont pas en récidive, parce qu'ils sont quand même, pour Claude Juillet en tout cas, avoué. Donc ça mérite, il faut garder la perpétuité pour disons des cas de récidive, des cas où les gens n'ont pas, enfin pour encore pire si c'est imaginable, mais là on est tellement anesthésié par l'horreur
des faits.
Ça dure une heure et demie quand ils les enterrent. Ils sont vivants et puis il y a ce moment horrible de la dernière pelletée de terre sur la tête de chacun d'eux, et il y en a un qui voit mourir l'autre. Quand vous entendez ça, quand vous voyez les photos, quand vous voyez la douleur des familles, la perpétuité, ça arrive dans la foulée, quoi.
Oui. Maître Dosé.
Oui, non, j'entendais tout à l'heure dans votre son, dans vos archives, l'une des personnes que j'ai défendues qui disait je voudrais finalement qu'il soit condamné à la même chose.
La loi du talion.
Qu'il soit enterré vivant. Vous savez, quand on est avocat des victimes, moi j'essaie toujours d'expliquer que ils n'iront pas mieux parce que les bourreaux ont été condamnés à la perpétuité. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le deuil, il se fait pas par la peine qui va être infligée à ceux qui ont fait le mal. On peut le croire, on peut le penser, on peut l'espérer, mais ça fonctionne pas comme ça. Donc,
et aussi dur, pardonnez-moi, je vous coupe, mais aussi dur que ce soit, ce qui est important pour les familles, c'est de savoir ce qui s'est exactement passé.
Voilà, il y a ça qui est très important. Il y a aussi le fait qu'on reconnaisse les faits, et puis parfois, pour aider à tourner la page, qu'on demande pardon. Mais là, n'oublions pas une chose. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu perpétuité? On n'en sait rien. On n'était pas dans, je suis pas dans le secret des délibérés, mais c'est un acte horrible. C'est un crime horrible. Mais ce crime horrible, il est perpétré par deux personnes dont la personnalité n'est pas horrible, dont l'histoire n'est pas horrible, qui n'ont pas accumulé les vols à main armée, les viols, les cambriolages.
Comme dit l'autre, il n'y a pas écrit monstre sur le front.
Non, mais il n'y a rien. Il y a un petit vol à main armée 30 ans auparavant. Oui. On n'est pas du tout face à des personnalités dangereuses en soi, mais le crime est horrible. Oui. Et la perpétuité n'est pas là pour sanctionner un crime, elle est là pour sanctionner aussi une personnalité. Oui. Donc je crois que c'est cela aussi, peut-être, qu'ont voulu dire les jurés.
Oui, mais est-ce que je continue avec vous parce que je l'ai entendu dans d'autres. On écoute beaucoup d'archives avant de sélectionner celles que on fait entendre là. Mais en fait, il y a dans les réactions des parties civiles, donc de vos clients et de ceux de votre consoeur, maître Le Serre, voilà. Il y a cette idée que ah oui, mais alors il n'y a pas de peine de sûreté de 22 ans, donc ils vont pouvoir sortir finalement beaucoup plus tôt, on dit demi-on, c'est possible?
Oui, c'est possible.
Ça veut dire quoi? Quand on est condamné à 30 ans,
C'est au bout de 15 ans, quand on est condamné à 30 ans. Mais à condition de donner quand même des tas de garanties. C'est pas, il faut, c'est une libération conditionnelle, donc il y a des tas de conditions à remplir, justement. Ouais.
Et ceux que vous représentiez ont compris alors? Vous leur avez expliqué?
Mon rôle, c'est de leur expliquer. Ouais. C'est de leur expliquer que l'acte doit être sanctionné, que le procès d'assises est là pour sanctionner ce qui a été fait, et qu'ensuite, ça n'appartient plus à la victime.
D'accord.
L'aménagement d'une peine n'appartient pas à la victime. Le comportement en détention n'appartient plus à la victime. C'est terrible à entendre, mais c'est aussi mon métier de jouer ce rôle pédagogique-là. Voilà. La peine n'appartient pas à la victime.
Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci Ondine Millot. Merci. Et je voudrais juste dire un mot, parce que c'est votre actualité. Là, je m'adresse à maître Marie Dauzet. Vous venez de publier dans une petite collection de Dalloz les sens du droit. Livre intitulé « Cour d'assises, quand un avocat et un juré délibèrent ». Voilà, je ne fais que citer le titre du livre parce qu'on arrive à la fin de l'émission, mais c'est très original. En tout cas, vous avez dialogué, donc c'est ça en
oui, c'est
un
la
mot,
première fois. Oui, c'est un dialogue inédit, préfacé par Ondine Millot de surcroît.
Oui.
Donc voilà, c'est notre actualité
avec
à tous les deux.
Un vrai avocat,
et nous étions ensemble dans la même affaire. Voilà.
Je vous remercie beaucoup. On mettra ces indications évidemment sur rtl.fr. L'émission est terminée et on va retrouver Flavie Flamand dans quelques secondes.